Radio de la Paix.
Reportage.
Les activités touristiques à Sassandra, sud-ouest de la Côte d'Ivoire, sont presque inexistantes, avec les sites touristiques restés à l'abandon depuis plusieurs années. L'ancienne maison du gouverneur, le wharf, le pont Wigand et bien d'autres sites sont désormais inexistants ou presque. Seul le monument aux morts donne fière allure. Dans le cadre d'une série de reportages dans la région, nous sommes allés à la découverte de ces vestiges à l'abandon.
Junior Cardin.
C'est vers 16h que nous sommes arrivés au bureau du directeur départemental du tourisme et des loisirs de Sassandra, Adama Koulibaly. Informé de l'objet de notre présence, il ne passe pas par quatre chemins pour planter le décor. Et depuis combien de temps vous êtes là maintenant ?
Depuis août 2022.
Et l'administration est à une continuité, même si vous êtes là il n'y a pas longtemps. On va vous poser quelques questions sur la situation. Aujourd'hui, là, à Sassandra, quel est l'état du tourisme ?
Sassandra, aujourd'hui, le tourisme va bien, puisque la ville ne cesse d'être envahie par des touristes. Mais le problème du tourisme à Sassandra, il faut dire que les sites sont délaissés, abandonnés. À part le monument aux morts qui est souvent visité par les touristes et qui connaît souvent un rafraîchissement de sa peinture, les autres sites, il faut dire qu'ils sont carrément à l'abandon.
Qu'à cela ne tienne, nous insistons pour aller visiter certains sites.
Ici, c'est le site de l'ancien marché de Sassandra et nous sommes juste à proximité du WAF dont les ruines sont visibles.
Et donc, pour ce site historique, vous nous avez fait venir un guide qui va se présenter.
Et moi, c'est Nguessan Rodrigue, ici dans le tourisme.
Dans le tourisme. Et tu es guide.
Oui.
Ton travail, ça sert à quoi?
Bon, au fait, mon travail, ça sert à donner l'image, expliquer l'histoire de Sassandra. Aussi, derrière nous, on a la forêt sacrée. Et là, on a le WAF.
Justement, c'est pour le WAF que nous avons décidé de venir ici dans un premier temps. Et le WAF, là, c'était quoi?
Au fait, c'était le premier port de la Côte d'Ivoire. Il y avait des bâtiments qui étaient construits, qui étaient là-haut, là-bas, que vous voyez là. Avant, c'était les bateaux voilés qui arrivaient. Après le bateau voilé, c'est là que les anciens exploitants qui étaient là ont décidé de construire un WAF aussi. Parce que d'abord, on dit que c'est le voyage sans retour. Parce que quand les bateaux voilés arrivaient, il y a eu le business de l'esclavage. Et de là qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup d'hommes qui savaient qu'il y avait le voyage sans retour. Et là, ils ont essayé de changer. Nous avons créé le premier port de la Côte d'Ivoire, ici. Et c'est ici que le port s'est déplacé pour aller à San Pedro. Bon, ça, c'est un côté de la politique. Bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails.
Et donc, depuis que le WAF ne sert plus de port, il faut nous décrire un peu. Parce que moi, je vois là, c'est comme des restes. Ce n'est plus praticable. C'est du vestige.
Bon, en fait, normalement, avant, il y avait les vieux bâtiments qui étaient là, mais après, ils ont détruit tout ce qui est comme les vieux bâtiments et ils ont construit un nouveau débarcadère qui est là.
Maintenant, je voudrais qu'on parle du WAF. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui reste du WAF?
Bon, en fait, c'est la ruine. Il n'y a plus grande chose. Hein. En 89, on passait, on allait directement sur le WAF. De là, on sautait, on descendait dans l'eau pour se baigner. Et au fur et à mesure, hein, c'est en ruine, personne ne peut aller là-bas. Donc, c'est que le WAF, maintenant, c'est en ruine. Au fait, là, il y a les chercheurs qui sont venus, qui ont dit qu'ils vont détruire tout ça et puis reprendre le WAF. Ils disent, mais est-ce que ça peut se faire? Quoi. Et c'est comme ça que non, le marché était là, ils ont déplacé le marché, ils l'ont amené de l'autre côté là-bas. Et là maintenant, nous disons qu'ils vont construire une usine de sardines. Bon, pour le moment, on ne sait pas si ça va se faire ou ça va se faire.
Donc, on peut conclure pour dire que le WAF, il ne reste plus que quelques piliers qui sont en train de tomber.
Au fur et à mesure, qui tombent. Parce qu'avant, c'est d'abord le derrière là qui était là, juste c'était coupé, tout petit qu'on a négligé. Et ça avançait jusqu'à ça arrivait à la grande pointe là-bas. Parce qu'avant, il y avait des bâtiments là-bas, il y avait même des douches, des bureaux qui étaient là-haut là-bas. Voilà, maintenant tout est en ruine. Voilà, au fur et à mesure. Ça commence à céder quoi.
Ça c'est pour ce qui est du WAF. Mais d'ici on part où? Vous allez nous montrer un autre site, c'est lequel?
D'ici on finit, on va directement vers la maison du gouverneur. Voilà, parce qu'il y a une histoire de l'esclavage, le passage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que non, le passage de non-retour.
On y va alors, on y va. Pour avoir accès à la maison du gouverneur, il faut passer par l'avant-cour interne de la prison civile de la ville. Chose pas évidente, mais que nous réussissons à faire grâce à l'intervention du directeur du tourisme. Mais ordre est donné par les agents pénitentiaires d'éviter les prises de vue à la traversée de la prison. Dans tous les cas, nous ne sommes pas là pour cela.
Rodrigue, on est maintenant au pied du palais du gouverneur. Mais apparemment, c'est à plusieurs compartiments, ce palais.
Bon, en fait, là, ici, on a d'abord la première prison qui est là, et la prison Colomb. De là, il y avait le bureau des gardes qui étaient là, qui est en face de la prison. Et avant, c'est la prison d'esclavage. Les gouvernants parents, ils venaient, ils les mettaient là. Et de là, ils les amenaient directement vers le gouverneur. Et là, qu'ils les amenaient là-bas, ils avaient un coin où ils faisaient vendre aux enchères. Et il y a un tunnel qui les faisait passer pour sortir au centre-ville là-bas. Et quand ils arrivaient au centre-ville, ils les faisaient marcher pour aller à Drouvin. Et à Drouvin, c'est M. Berger qui était là. Et il y a Emile Fischer qui était à l'autre côté. Et de là, quand ils arrivaient là-bas, c'est Emile Fischer, il avait son garage. Dans son garage, il les mettait là, il y avait un tunnel qui sort. Et quand les bateaux voilés arrivaient, ils les chargeaient là et ils les emportaient directement à l'île de Gorée. Ils les amenaient là-bas.
Est-ce qu'on peut marcher un peu vers le palais même du gouverneur pour que tu nous expliques un peu comment les choses se passent. Voilà, donc on y va.
En fait, le tunnel en question, c'est celui qui se trouve là. Et c'est là qu'ils faisaient le vent des enchères. Là, ils s'asseyaient là, et quand ils arrivaient, ils étaient là, tout ça, sur ces escaliers-là. Ils se mettaient là. Maintenant, les récalcitrants, ceux qui ne veulent pas, qu'on les emporte, et parce que c'est des gens robustes. Hein. Et là, ils les mettaient dans la petite prison là-bas. Et ils les mettaient juste en genoux comme ça, dans la prison. Mais après, quand ils cèdent, et on les fait descendre là, ça fait la profondeur fait 7 mètres. Et ils marchaient pour aller jusqu'au centre-ville.
Et tout ça, ça se faisait à moins de 10 mètres du palais. Il y a l'idée de la résidence du gouverneur.
Voilà,
la
résidence du gouverneur. Puis personne n'a accès dans son lieu. Parce qu'il avait les champs de canons qui étaient là. Il avait ses gardes qui étaient là. Personne n'a accès ici. Parce qu'avant, tout ça, la ville n'existait pas. Parce que c'était seulement que la forêt. Ils se méfiaient aussi. D'abord, si les premiers exploitants qui sont venus ici, c'est d'abord les Portugais. Et après, les Portugais sont venus, les Hollandais. Après, les Hollandais sont venus, les Anglais. Les Anglais, mais eux, ils ont été torpillés en pleine mer par les Allemands. Voilà. Et les Français sont venus après. Sinon, celui, le bâtiment que vous voyez là-bas, qui est à ma gauche, hein, là, c'est le bâtiment de M. Seruya da Costa. Lui, il a remonté le fleuve jusqu'en Guinée.
Mais le palais du gouverneur, quand on regarde ça, à l'époque déjà, les gens vivaient avec les duplex.
Oui. À l'époque, les gens vivaient dedans. Bon, au fait, il n'y a pas une date fixe. Parce qu'on dit que c'était après la Deuxième Guerre mondiale. D'autres disent que c'est avant la Deuxième Guerre mondiale.
On voit même un balcon. Hein. Il y a un balcon
là. Non, là, c'est son lieu de rassemblement. Mm-hmm. Il y a une plateforme qui est là. Et là, il se mettait sur le balcon. Là, c'est son lieu de rassemblement qui est là. Et il avait ses champs de canons qui étaient juste à côté. Et là, sa cuisine, là, qu'on voit là, vous voyez là, vous voyez le four là. Voilà, c'est la cuisine. Il avait l'escalier qui descendait directement. Et il avait accès derrière la cuisine.
Ben, le bâtiment est en ruine hein, depuis plusieurs années maintenant.
Bon, au fait, c'est en 2015 que ça a été reconnu bâtiment mondial de l'UNESCO. Et là, bon, grâce à l'ambassadeur de l'Amérique est venu avec les doyens. Ils ont dit qu'ils ont fait venir des ingénieurs pour venir étudier, qu'ils vont raser tout ça pour reprendre. Ouais, c'est pas quoi prouver. Mais les chercheurs qui sont venus, ils ont reconnu qu'ils ont vraiment, ils ont retrouvé des ossements d'hommes dans ce tunnel. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont, c'est reconnu bâtiment mondial de l'UNESCO. Et là, ils ont posé la première pierre que vous voyez là-bas, là-haut, là-bas, en 2015. Hein. On va arriver près de la pierre, vous allez voir. Hein.
Donc, aujourd'hui, là, on ne peut plus rien hein, pour cette bâtisse.
À présent, le bâtiment était de... ça commence à céder. Donc, à présent, on ne peut rien pour le bâtiment. Alors, c'est pour ça même que quand on vient visiter, on demande aux touristes qu'ils arrivent de ne pas monter sur l'escalier là-haut, là-bas. Mmh. Parce que là, ce n'est pas bon. Parce que ça cède maintenant, ça commence à se casser. Sinon, là-bas, il avait une belle vue sur la mer comme le fleuve. Depuis sa maison, il avait une belle vue.
D'accord. Bon, on n'a rien fait le wharf. Hein. On vient de voir le palais du gouverneur. Et on va découvrir quel autre site maintenant, Rodrigue.
Bon, nous avons plusieurs. Mm-hmm. Là, ici, nous avons le phare ouest qui est là. Et de là, après, il y a l'église Saint-Andréa qui a été construite en 1940. Et même chose avec le pont Wegang. Le Wegang, c'est l'ingénieur qui a construit le pont qui est fait en virage en 1940. Mais seulement qu'entre l'église Saint-Andréa et l'église. C'est Saint-Andréa aujourd'hui qui porte le nom de Saint-Andréa. Voilà. Saint-Andréa, c'est des Portugais.
Du palais du gouverneur, nous prenons la direction du monument aux morts, non loin du wharf.
Bon, en fait, l'histoire de ce monument, l'histoire nous dit non, que non, ça, c'est des Anglais qui ont été torpillés par les Allemands. Ouais, ils ont été torpillés en 1943. Et tous ceux qui étaient dans ce navire-là, et c'est tout le nom qui est marqué là. Voilà, c'est en décembre 1943.
Et puis c'est le 25 décembre 1943.
25 décembre 1943, oui.
Et c'est écrit là-bas à la mémoire des victimes du naufrage. Il s'agit de quel naufrage?
En fait, c'est un bateau anglais qui passait, et c'était le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le bateau passait dans le large de Sandra, et il y a un sous-marin anglais qui a chargé le bateau. C'était en Deuxième Guerre mondiale.
C'est tous des Anglais, c'est ça?
Oui. Bon, au fait même, parce que c'est pas forcément les Anglais. En fait, non, il y avait aussi des Noirs dedans. Ils n'ont pas tout détaillé, mais tous les noms qu'on voit là, c'est seulement que les noms des Anglais qu'ils ont changé. Parce que c'est qu'ils avaient, ouais, ils faisaient le business de l'esclavage. Et s'ils disent non, il y avait des Noirs dedans. Là, tout que non, vraiment, le bateau s'est passé. Ah, on sait que non, il y avait des Noirs dedans. C'est pas seulement que des Blancs qui étaient dedans.
Mais on nous déclare, selon seulement les Blancs,
c'est
les Anglais.
Normal. C'est pas normal qu'on nous déclare seulement que les Blancs. Voilà. Il y a des Noirs dedans.
Quand on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En haut, hein. En haut. Et en bas, là, je crois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 et 7, ça fait 22. Ça fait 22 personnes.
Ah. C'est pas tout le monde qu'ils ont déclaré.
Apparemment, les gens viennent régulièrement pour nettoyer ici.
Oui, oui. Chaque année, à la même date, c'est l'ambassade de l'Angleterre. Avant, l'ambassadeur envoyait des gens pour venir mémorer. Mais cette année-là, ils ne sont pas venus. Personne n'est venu. Parce qu'on connaît aussi la crise, tout ce qui se passe un peu dans le monde.
Hein. Mais cela n'empêche, la peinture, elle est neuve.
Oui, oui. Tout dernièrement, ils ont mémoré parce qu'il y a une personne qui est là, M. Kravesej, voilà, le directeur de la FNH qui est à Sandrecis, la Fédération nationale des ateliers, tout ce qui est comme nous.
C'est lui qui a fait la peinture.
Qui a fait la peinture. Bon là, ils sont venus, ils ont fait une cérémonie là, avec des bâches, tout ça. Bon.
Le directeur départemental du tourisme, Adama Koulibaly, veut apporter quelques précisions.
Il s'agit effectivement du monument érigé à la mémoire des naufragés du bateau anglais SS Dumana, torpillé par les nazis le 25 décembre 1943. Chaque année, les Anglais, il faut dire qu'ils viennent organiser une cérémonie de commémoration en l'honneur de ces soldats tombés au champ d'honneur. Tous les 11 novembre précisément. Et à 11 heures précises, ils viennent pour faire cette cérémonie-là.
Ça veut dire qu'ils ont été inhumés ici?
Bien sûr. Le monument est là. Il est visible avec les noms des soldats tombés au champ.
Situé à quelques minutes de la ville, le pont Wegand offre, outre son architecture, une belle vue sur le fleuve. Il est situé sur l'ancienne route de Lakota et de Gagnoa. Et il tient encore.
En fait, le pont, c'est fait en béton. Ça a été construit en 1940. Et ce pont-là, l'ingénieur qui a construit ce pont, ça s'appelle M. Wegand. C'est même la mère, c'est un Français. Il a même ses enfants qui viennent à chaque moment voir le pont de leur grand-père qui est là.
Ce pont-là, en quoi il est à découvrir?
Bon, en fait, là, quand Lakota n'existait pas, j'avais l'ancienne voie de San Pedro à Abidjan. C'était pas là qu'on passait. Et de là, tu te retrouvais à Lakota, Lakota, Divo, Ndoussi, Tassalé, et tu rentrais chez Abidjan. Voilà, tout est goudronné. Et après ça, la côtière a été construite en 93. Et là, ils ont abandonné maintenant le pont Wegang. Mais c'est un pont qui a été construit en béton. Et là, tu as une belle vue sur le fleuve, tu as les cascades que tu vois. Et là aussi, il y a les hippopotames aussi qui sont là aussi. Le village qui est juste à côté, le village s'appelle Garou. Il y a l'île de Garou qui est là.
La particularité, c'est que c'est fait en béton, c'est ça?
En béton, oui, oui. C'est fait en béton, construit par M. Wegang, tournante, oui, oui. Donc, il est fait en virage. Mais si vous souvenez, il y a un artiste qu'on appelle Solo Diagoum qui mettait les lance-pièces à concours là. Il a fait un clip par le tourisme. C'est sur le pont de Garou qu'il a tenu ce clip-là. C'est ici qu'il a fait ça. Ceux qui n'ont jamais vu un pont fait en béton, ce virage, venez à Sandra, vous allez voir. On a les merveilles à Sandra. Il y a beaucoup à voir à Sandra.
Et Rodrigue, comment tu t'es intéressé à tout ça? Comment tu as su tout ça?
Bon, en fait, moi, le côté du tourisme, là, au début, j'avais des grands frères qui expliquaient, qui étaient avant nous, les doyens, qui nous expliquaient, qui me parlaient un peu des trucs historiques. Et puis, quand on arrivait près des vieux, ils expliquaient les histoires. Et c'est là qui était ma passion. C'est ça qui m'a plu. Et c'est là qui me suis intéressé dans le tourisme. Et c'est là que moi aussi, j'ai fait d'autres découvertes. Donc, c'est pour ça que quand les gens arrivent, que j'explique un peu l'histoire, vendre un peu l'image de Sandra. Surtout, ce qui m'a fait, qui m'a touché, c'est le passage de l'esclavage, le chemin sans retour. Voilà, c'est ça qui m'a touché. Et c'est là que je me suis engagé dans le tourisme.
Merci donc à toi, Rodrigue. Monsieur le directeur départemental, on a fini notre randonnée hein, à travers les sites historiques. Et maintenant que nous allons nous séparer, vraiment, c'est avec pincement au cœur qu'on découvre cette richesse historique, ces sites touristiques qui, malheureusement, sont à l'abandon.
Merci pour la préoccupation. Effectivement, nous constatons que les sites historiques, particulièrement, sont en train de tomber en ruine. Et si rien n'est fait, d'ici quelques années encore, on ne pourra plus parler de ces sites-là. Et notre souci de promotion de ces œuvres historiques, nous souhaitons qu'ils soient préservés à tout prix. Et pour cela, nous allons nous orienter vers les collectivités afin qu'ils nous aident à les entretenir et à les préserver. Puisque aujourd'hui, là, ces sites ne sont pas au nom de quelqu'un. On ne peut pas mettre de personnes physiques sur ces sites, mais au moins avec les collectivités, nous pourrons faire face à ces préoccupations d'entretien, de restauration, etc. Nous allons très bientôt adresser un courrier à ces collectivités afin qu'ils nous aident à préserver notre patrimoine, notre richesse dans le Boclet, précisément à Sassandra.
Mais est-ce qu'au niveau de votre direction, j'allais dire au niveau de votre ministère, quelque chose est prévu pour remettre à flot donc, ces sites historiques?
Bon, pour le moment, nous venons de prendre fonction et nous allons soumettre un projet à notre hiérarchie par rapport à ces sites-là. parce que vous verrez même le WAF qui est visible, qui a ses pieds qui sont en train de tomber. Le WAF est déjà en ruine.
Ça veut dire que la situation du tourisme, pour le moment, est à plaindre dans la région du Gbokelé, alors qu'elle regorge de pas mal de sites.
Effectivement, c'est ces sites-là que nous voulons réhabiliter afin que les touristes viennent les voir dans un état appréciable et continuent de fréquenter notre zone.
Mais, monsieur le directeur départemental, qu'est-ce qui peut expliquer que ces sites-là soient laissés comme ça à l'abandon? Est-ce que ça veut dire que les parents, même au niveau local ici, ne s'y intéressent pas?
Ce que je peux dire concernant ce volet de la question, je pense que c'est l'ignorance. Les populations ignorent ce riche patrimoine qu'ils ont à disposition. Ailleurs, les autres font mains et pieds pour pouvoir visiter les sites historiques, les entretenir. Mais ici, malheureusement, nous n'avons pas de responsable de ces sites-là. Quand je parle de responsable de ces sites, je parle de l'entretien, soit par les collectivités, soit par des individus, soit par l'administration. Donc, c'est ce défi que nous devons relever. Nous allons soumettre ça aux uns aux autres, à toutes les parties prenantes pour que ces sites puissent être vraiment réhabilités. C'est notre souhait.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population du Gbokelé par rapport donc à cette richesse touristique, culturelle que cette population a, mais qui malheureusement, j'allais dire, est ignorée?
Effectivement, c'est un appel que nous lançons à la population du Gbokelé de s'approprier l'activité touristique afin de revaloriser tous ces sites dont nous parlons, qui ne demandent qu'à être rafraîchis et permettent un plus grand nombre de visiteurs et de touristes pour le bonheur de ces mêmes populations pour qui nous travaillons au quotidien. Nous comptons sur leur collaboration et leur participation effective à l'action touristique afin de faire du Gbokelé et particulièrement de Sassandra une vraie région touristique avec des sites bien aménagés.
En tout cas, merci à vous, monsieur le directeur départemental du tourisme de Sassandra. Merci à toi, Rodrigue. Tu nous as permis de découvrir beaucoup de choses. Voilà, tous ces sites historiques. Et c'est la mort dans l'âme que nous sommes en train de partir de Sassandra. Parce que ce que nous avons vu, il aurait fallu un peu de volonté, un peu d'effort pour restaurer tout ça. Afin qu'aujourd'hui, là, ça puisse drainer du monde à Sassandra, ne serait-ce que pour découvrir ce point important de notre histoire commune, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Merci donc à vous, monsieur le directeur départemental. Et merci à toi, Rodrigue. Et à très bientôt. Reportage signé Junior Cardin depuis le pont Wigand à Sassandra.
C'était Reportage Radio de la Paix.